cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Joseph le 3 décembre 1986.
j'ai vécu un an à côté de lui et j'ai pas découvert ce qu'il était. Je l'ai aimé parce que j'ai su l'aimer. Mais j'avais pas du tout découvert. J'avais pas découvert qu'il y avait un trésor en lui, que c'était une petite violette. Et je le regardais comme une grosse pivoine fanée. Ça existe, ça. Quelquefois pendant un an, on regarde les grosses pivoines fanées. C'est ce qu'elles sont lourdes, ces pivoines fanées. On tire pour voir si ça tombe. Vous voyez la différence donc entre l'expérience et la découverte du principe. Et la philosophie repose sur la découverte du principe. Ça c'est très important et c'est très bien d'avoir posé la question. Parce que c'est la différence entre la phénoménologie et la philosophie. Puis-je faire reposer ma morale humaine sur la résolution que j'ai prise d'obéir au commandement de ma mère, que à mon âge de 14 ans, je n'ai pas encore choisi librement. J'aimerais des frères et des parents. À qui tu obéiras, et tu ne seras pas méchant envers eux. Donc, la cuillère de soupe pour maman, la cuillère de soupe pour papa, c'est tout le fondement de ma morale. Alors, voyez bien, vous ne faites pas la morale de vos 14 ans. À 14 ans, vous êtes incapable de faire une éthique. Nous faisons, nous, une philosophie éthique. Autre problème de savoir comment je peux éduquer. Ça, c'est autre chose. Hein. L'éducation est un art politique, un art qui implique toute une morale. Ça, c'est l'éducation. Comment, aujourd'hui, pouvons-nous dire à un gosse de 14 ans qui ne veut pas obéir, mais tu ne dois pas être méchant. Alors, elle, comment pouvons-nous dire ça? Oui, ça, c'est l'éducation. C'est très important, mais c'est pas ce que nous faisons. Nous ne faisons pas un cours pour l'éducation. Nous essayons de découvrir qu'est-ce que c'est que la philosophie éthique. Or, je vous ai dit, je ne peux pas fonder mon éthique sur le premier amour que j'essaie de découvrir dans l'enfant au berceau. Je veux dire, le petit enfant, il aime sa mère. Sans doute que le premier amour a été ça. Je n'en sais rien. Parce que je ne me rappelle plus. Vous non plus. Je ne crois pas du tout. Si vous rappelez votre premier amour, quand vous étiez encore dans le berceau, et que tout d'un coup vous avez regardé votre mère, dit, oh, une vision de la Sainte Vierge. Non, j'avais bloqué. Là. Non, vous ne pouvez pas vous rappeler. Impossible. Si vous vous rappelez, c'est imaginatif. Et dans la méthode psychanalytique, il y a beaucoup d'imagination. C'est pas commode de retrouver. On peut découvrir les nœuds, mais pas l'aspect positif. C'est ça qui est très curieux. Alors la psychanalyse, c'est découvrir les nœuds. L'aspect négatif marque plus. Je peux plus facilement me rappeler la première fois où j'ai dit non à ma mère que la première fois où je l'ai aimée. Très très curieux ça. Parce que l'amour naît toujours dans le nuage. Je ne fonde pas ma philosophie éthique sur la réminiscence. Ce serait platonicien que cette réminiscence me conduise au berceau. Que cette réminiscence me conduise à l'état avant d'être uni au corps. C'est la même chose. C'est la réminiscence. Je fonde ma philosophie sur l'expérience actuelle. C'est pour ça qu'Aristote disait que pour faire de l'éthique, il fallait dépasser l'âge des passions. Parce que quand on fait de la philosophie et qu'on a 18 ans, et qu'on est grec et non pas chrétien. Nous avons un privilège énorme d'être chrétien. Et donc, normal. sens actuel d'amour, d'amitié, de joie. Et à partir de là, j'essaie de découvrir un principe. Principe de finalité. Puis-je faire reposer ma morale humaine sur la conscience que j'ai prise que, pour moi, l'unique nécessité de ma survie est l'amour. Voyez, ce n'est pas sur la conscience que je vais reposer ma morale. Ce serait cartésien. La conscience n'est pas l'amour. Je vais reposer ma morale sur une expérience d'amour. C'est pas la même chose du tout. La conscience est une propriété. C'est une propriété, c'est pas la substance de mon acte. Alors, est-ce que cette nécessité d'aimer mes semblables suffit à fonder une morale? C'est tout le gros problème et très intéressant de savoir si la philanthropie peut fonder la morale. Alors, quelle expérience avez-vous de la philanthropie? J'aimerais beaucoup savoir ça. Philanthropie, c'est aimer son semblable. Nous sommes tous de la même race humaine. Et donc nous nous aimons tous parce que nous sommes tous liés les uns aux autres. Qu'est-ce qui brise la philanthropie? L'anarchie. Le terrorisme. Dans un âge de terrorisme, il est bon de faire appel à la philanthropie. Ça, c'est apologétique. Est-ce que c'est ça qui me permet de fonder la morale? Je dis non. Parce que la philanthropie n'est pas une expérience suffisamment nette. C'est un peu comme le bon sens. La philanthropie repose sur le fait que je considère les hommes comme faisant tous partie de la même race. C'est déjà une conclusion. Je crois qu'il faut quelque chose de beaucoup plus direct. Et c'est pour ça que je prends l'amour d'amitié. Vous dites que la loi naturelle n'est pas inscrite explicitement dans mon intelligence pratique. Pourriez-vous préciser cela par rapport à l'affirmation de Saint Paul au sujet des païens? Saint Paul est de l'ordre de la révélation. Ces hommes possèdent, il ne faut pas l'oublier, Paul a une lumière que le philosophe n'a pas et qu'Aristote n'a pas. Ces hommes, sans posséder de loi, se tiennent au même lien de loi. Ils montrent la réalité de cette loi inscrite en leur cœur, à preuve le témoignage de leur conscience. Il est dit aussi dans les Actes des Apôtres, vous adorez un Dieu inconnu que je viens vous, révéler. C'est dit aussi. Pourriez-vous aussi préciser le rapport entre l'imperium et ce qu'on appelle traditionnellement la voie de la conscience? C'est très important cette question-là, de la loi naturelle. Alors, d'abord, historiquement, à quel moment est apparue la loi naturelle? Chez les stoïciens. C'est intéressant de se rappeler ça. Chez les stoïciens, cherchez bien dans Aristote. Vous voyez pas. Alors, c'est pas parce qu'Aristote ne le dit pas que je le dis pas. Prenez bien. Les stoïciens, c'est au niveau de la providence. Les stoïciens, c'est la providence. Donc c'est dans une vision de sagesse. Dans une vision de sagesse, je peux parler de la loi naturelle. Et je peux dire qu'est inscrite en nous la loi naturelle. Oui, elle est inscrite en nous. La loi naturelle qui est inscrite en nous. Plus ou moins explicite, suivant ma première éducation et suivant les traditions religieuses. Cette loi naturelle est plus ou moins explicite. Mais elle n'est pas totalement explicite. Si elle était totalement explicite, il n'y aurait qu'une seule loi naturelle pour toutes les traditions religieuses. On ne sait pas ce qui se passe. Quand je lis dans l'Écriture que, de fait, le saint Abraham, pour avoir un enfant, demande à sa servante, à la place de son épouse, est-ce que c'est la loi naturelle? Pas commode. Et Abraham est quand même quelqu'un. Un exemplaire. C'est un grand sa peau. Vous voyez comme c'est difficile, la loi naturelle d'Abraham. Lisez l'histoire d'Abraham et cherchez la loi naturelle dans Abraham. Et pourtant, Abraham, c'est Abraham. C'est très difficile, la loi naturelle. Regardez certaines peuplades actuelles en Afrique. Quelle est la loi naturelle? Dans l'animisme. Pas si commode que ça. Léon, il faut être très très réaliste là-dessus et voir que de fait les traditions religieuses sont multiples et ont des conceptions diverses de la famille. Et que la loi naturelle, j'affirme la loi naturelle, ne dites pas que j'affirme pas, mais dans une vision de sagesse. Que je peux dire que c'est très clair. On n'a pas le droit de tuer. garder la morale sur la conscience, c'est aboutir à dire que le petit enfant qui est dans le sein de sa mère n'a pas conscience. Donc c'est pas une personne. Donc. Oui, c'est pas commun du tout. Hein. Je suis tout à fait d'accord qu'il existe une loi naturelle. Il existe une loi naturelle, mais cette loi naturelle, je ne peux la préciser que dans un jugement de sagesse. À découvrir, c'est toujours très difficile puisque ça dépend des contextes. Prenez n'importe quel problème. Est-ce que un État peut affirmer la peine de mort? C'est un très bel exemple encore là. Parce que immédiatement, politiquement, les gens se divisent en deux camps. Ceux pour la peine de mort, ceux contre la peine de mort. À ma droite et à ma gauche.
Devons dans le monde d'aujourd'hui, après Nietzsche, et je dis
Alors, si c'est intéressant de lire le dialogue des jeunes et des vieux, n'est-ce pas, et de comprendre que les uns sont kantiens, et puis les autres sont nietzschéens. Alors, est-ce que je dois les laisser parler ensemble, mais au contraire, je dois comprendre que ces deux m'obligent d'aller beaucoup plus loin et de redécouvrir le fondement propre de l'éthique. Mais c'est ça le problème. Sans être dans une perspective apologétique, la topique historique est nécessaire au plan philosophique. Je dois regarder ce qui se dit aujourd'hui. Et je prends les deux parce que c'est les deux. Il y aurait beaucoup de formules intermédiaires, mais c'est les deux qui me semblent les plus caractéristiques. Alors, nous étions arrivés la dernière fois à essayer de comprendre comment le point de vue imaginatif, l'imaginaire, peut corrompre le premier amour et l'empêcher de mûrir. Se fait-il qu'il y a tellement de velléitaires et de gens qui sont charmants? Ils sont charmants dans un salon. Mais dès qu'on les met sur le champ de bataille, plus rien du tout. Mais c'est intéressant de voir le climat du salon et le climat du champ de bataille. Le climat du salon, on échange des idées, des points de vue. On reste dans un premier amour. C'est merveilleux. Il n'y a pas d'intention de vie. L'intention de vie fortifie l'amour par l'intelligence. Un amour spirituel qui n'est pas saisi par l'intelligence reste velléitaire. Et c'est l'imagination qui s'en sert. Alors on est velléitaire. Et le premier amour se corrompt. C'est l'intelligence qui fortifie l'amour. Une intelligence pratique. Et qui me fait découvrir à l'intérieur de l'amour ma finalité. Ça, c'est faux. Il faut arriver à comprendre ça. Le passage de l'intention de vie au choix peut encore se corrompre. Et tous les obstacles, tous les obstacles qui peuvent exister, avant d'avoir une vérité profonde au point de vue moral. Le passage de l'intention de vie au choix, l'imaginaire passionnel, vient encore corrompre ce passage. Au niveau du choix, par un aspect trop subjectif. le choix, premièrement, porte sur un moyen qui me permet d'atteindre ma fin. Et là, il faut justement que l'intelligence pratique vienne supprimer le ronron du petit chat auprès du feu pour choisir le moyen pratique qui est en bonne naturalité avec la faim, qui est le plus proche de la faim et qui exigera de moi un effort. Et c'est l'intelligence pratique qui va permettre cela. D'être victorieux de l'imaginaire, parce que l'imaginaire est très fort au niveau des moyens, vous comprenez bien. Vis-à-vis de n'importe quel moyen, je dois faire mon service militaire. Faut-il faire son service militaire ou pas faire son service militaire? Faut-il aller dans la coopération en Afrique ou autre part, au Texas? Où est-ce que je dois faire ma coopération? Alors, il s'agit de choisir, il y a un choix. Il s'agit de choisir pendant le temps de l'avant, faire un avant qui soit généreux. Plein de choix. Me dépasser. Pas rester dans un vague à l'âme de tristesse. C'est très mauvais, c'est un mauvais avant, ça. Il s'agit de faire. Alors quels sont les moyens? Quels sont les petits trucs que le Seigneur met devant moi? Alors je peux me dire. Moi, j'aime pas la lutte comme les mouches. Je suis beaucoup trop sensible. Alors, je fais laisse couler les choses. Donc, je ne passe jamais un acte. Je ne passe jamais un acte. L'Imperium, c'est passer un acte. Alors, il y a une très grosse difficulté. J'ai des tempéraments intellectuels de passer à l'acte. Parce qu'il voit tout de suite les difficultés. Il voit tout de suite les difficultés qui s'entourent. Quelqu'un qui n'est pas très intellectuel, il dit, j'ai décidé ça, ça y est. Mais tempérament un peu volontaire, volontariste. J'ai décidé ça hier, coûte que coûte, ça n'a pas d'importance. Je passerai à travers tout. Et au fond, même on aime les difficultés. Et on les augmente par plaisir. Tandis qu'au contraire, l'intellectuel, c'est juste l'inverse. Alors, il hésite. Et on commence à hésiter. L'Imperium, une fois que la décision est faite, il faut que ça se fasse vite. Parce que si vous commencez à hésiter, vous êtes sûr d'être perdu. Si vous êtes un peu intelligent et que vous réfléchissez, il y a l'imaginaire qui empêche de passer du choix à l'Imperium. Il y a certaines personnes qui n'arrivent jamais à passer l'Imperium, tellement l'imaginaire est fort. L'Imperium implique l'usage. Alors là aussi, l'usage, l'application, ça implique une durée. L'application. Alors, c'est bon un moment, et c'est difficile après. Ça revient à des difficultés, vous voyez. Autrement dit, l'imaginaire me joue des tours terribles. Alors, comment lutter contre l'imaginaire? Comment lutter contre l'imaginaire lié aux passions, lié à l'affectivité? C'est là où je vois comment l'éthique, la morale, implique des actes pour acquérir certains habitus qu'on appelle des vertus. La vertu est nécessaire à cause de l'imaginaire. La vertu est nécessaire à cause de ça. S'il n'y avait pas l'imaginaire, je n'aurais pas besoin de vertu. Ce serait normal. Puisqu'il faut chercher le bien, éviter le mal. Alors allons jusqu'au bout. Eh bien, ça ne suffit pas d'affirmer ça. Il faut chercher le bien. C'est bien, autrement, on a toujours le syllogiste de l'ivrogne. Le syllogiste de l'ivrogne. Je sais très bien qu'il faut chercher le bien et éviter le mal. Or, pour moi, l'alcool, c'est très mauvais. J'en ai l'expérience. C'est très très mauvais. Oh, regardez cette bouteille. Je n'ai pas encore vu ce vin extraordinaire. Il a une couleur. On va quand même en goûter un tout petit peu. Je ne sais pas aller contre. Un tout petit peu. Puis à côté de moi, il y a toujours le malicieux qui, après la première goutte, en verse une seconde goutte, une troisième goutte. Une fois que je commence, ça y est. Ça, c'est le syllogisme de l'ivrogne. Beaucoup d'articles dans les journaux sont bâtis sur le syllogisme de l'ivrogne. Ce serait très intéressant comme étude pratique. On verrait certains journaux et on verrait que c'est bâti sur le syllogisme de l'ivrogne. Il y a quatre pieds. C'est pas étonnant, l'ivrogne. Il faut qu'il y en ait quatre. Ce qui ne peut plus se tenir debout. D'habitude, un syllogisme a trois pieds. Là, il y en a quatre. Vous comprenez bien. Il faut faire le bien, éviter le mal. Pour moi, l'alcool est mauvais, donc je ne bois plus. C'est net, c'est précis. Ça, c'est le verdict du médecin. Et le médecin veut vous rendre raisonnable. Il vous a montré que l'alcool était mauvais pour vous. Il fallait l'éviter à tout prix, à tout prix. Donc, c'est net. L'ordonnance, c'est net. Mais quand le médecin a le dos tourné, et qu'on se retrouve en famille, avec des amis, avec tous ceux qui nous connaissent, qui savent nos penchants. Alors, il y a un quatrième terme qui aboutit. Cette bouteille, tu ne l'as encore jamais vue. Oui, la séduction. Le fruit est beau. Je prends la bouteille parce que ça, c'est grec. Hein. C'est grec, la bouteille, le vin. Pour y prendre autre chose. N'importe quoi, toujours, ça arrive. sois reclus dans ta prière. Oui, mais à côté de moi, il y a quelqu'un qui a l'air de très très bien prier. Je le regarde. À cause exemplaire. Ah oui, ma cause exemplaire. Et très vite, la cause exemplaire se transforme en une sainte jalousie. C'est un vrai semblable qui prie beaucoup mieux que moi. C'est un vrai semblable. Je dis tout la cause exemplaire. C'est intolérable. Oui, si le gis se livrogne, il faut le faire disparaître. Alors là, je serai libre et je commencerai à prier. Se laissent